assistant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous. Tout le monde connaît la CIMADE en France, Association protestante multiconfessionnelle et laïque de défense des réfugiés, créée pendant la Seconde Guerre mondiale. Certains trouvent son action admirable, mais d'autres, trop nombreux, chargent cet organisme de tous les maux du monde. Nous en parlons beaucoup à cette antenne, mais nous avons eu peu d'occasion de connaître son ex-dirigeant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Henri Masson, président sortant de la CIMADE, qui a accepté de parler de lui. Alors, bonjour Henri.
Bonjour Yolande.
D'abord, ex-président depuis quand ?
Oh, ex-président depuis à peu près maintenant 2 mois.
Oui.
4 juillet, 4 août, 4 septembre, voilà, en gros.
Donc,
je n'étais pas le dirigeant. Et le président n'était pas dirigeant de l'association, il était président du Conseil national. Il y a une secrétaire générale qui, elle, a la responsabilité de faire fonctionner au jour le jour et tout. Ce qui ne veut pas dire que, effectivement, le président ou la présidente, puisqu'aujourd'hui c'est une présidente, n'ont rien à dire et regardent les trains passer. Non, certainement pas. Mais le terme n'est pas un terme utilisé à la CIMADE. Voilà.
Oui, d'accord. Donc, c'est pas son dirigeant. Ok,
voilà.
Donc, très bien. Alors, vous connaissez peut-être le principe de l'émission. On parle de vous, de votre parcours. Ouais. Et puis, dans d'autres émissions, on parlera plus spécifiquement de thèmes qui vous sont chers. Alors, votre héritage protestant. D'abord, est-ce que vous êtes d'une famille protestante ou est-ce que vous venez de, comme beaucoup, d'ailleurs ?
Moi, je viens d'ailleurs. Enfin, hier, j'étais à Mialet.
À
l'Assemblée du désert. Et le thème, c'était l'unité dans la diversité. Enfin, je dis avec mes mots, effectivement. Et je pense que je suis un très bon exemple de ça, parce que par ma mère, j'appartiens à une famille qui était à la fois d'origine juive et protestante depuis la Réforme, avec effectivement toutes les conséquences que ça pouvait et qui pouvaient avoir lieu au XVIIe siècle, effectivement avec des emprisonnements et des arrestations dans le Cidobre, à Vabre en particulier. Par mon père, c'est aussi un mélange catholique et juif aussi, avec une petite partie protestante. Et moi, j'ai été élevé dans la tradition protestante, d'abord dans le luthéranisme, pour une proximité d'un temple luthérien, effectivement. Puis ensuite, effectivement, j'ai choisi le protestantisme libéral avec l'Oratoire du Louvre, dont j'ai été président du conseil presbytéral pendant plusieurs années, premier président laïque de ce conseil presbytéral.
Alors, on va rentrer dans les détails. Je voudrais juste faire une petite remarque. Vous parlez de l'Assemblée du désert, donc qui a eu lieu le dimanche 7 septembre,
oui,
c'est ça ? Puisque cette émission sera diffusée un peu plus tard. Donc, c'est une question de date. Et vous parlez de président laïque d'un conseil presbytéral.
Oui. Oui, parce que
c'est étrange, ça.
Non, c'est pas étrange. Dans la tradition, effectivement, des églises de la Réforme, très souvent, c'était effectivement un pasteur ou une pasteur qui était président, effectivement.
Oui.
C'est en ce sens que j'ai utilisé le terme de laïc.
Oui, il m'a fallu du temps pour m'en rappeler qu'effectivement, il y a longtemps, c'était toujours un pasteur.
C'était ça la différence, effectivement.
Oui. D'accord. Et alors, vous avez parlé donc de tendance libérale. Mmh. Qu'est-ce que vous y trouvez dans cette tendance ? Qu'est-ce qui vous intéressait particulièrement ? C'est des rencontres, c'est des thèmes, c'est des pasteurs que vous avez connus ?
Oui, c'est la théologie,
oui.
c'est-à-dire l'ancrage dans la vie de tous les jours, dans le monde dans lequel nous vivons. Et je pense que la théologie libérale est particulièrement adaptée, si on l'interprète ou si on l'utilise plutôt bien, particulièrement adaptée dans un monde qui est dans une société qui bouge énormément comme ce que nous vivons aujourd'hui. D'ailleurs, ce que l'on constate, c'est partout, m'écarte là du protestantisme, un retour au conservatisme, un retour à toutes les règles qui pouvaient exister autrefois. Pourquoi ? Parce que ça rassure dans un monde qui change énormément. La théologie libérale, c'est effectivement un ancrage dans la vie d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire tout accepter, ça ne veut pas dire considérer que tout ce qui est nouveau est beau. Non, pas du tout, mais c'est une réflexion et une adaptation au fait que les hommes que nous sommes, les hommes et les femmes que nous sommes, effectivement, vivent dans un contexte qui est difficile, très changeant, et qu'il faut les accompagner avec intelligence et pas du tout avec des règles forcément strictes et précises qui ne les rassurent pas, qui les inquiètent bien au contraire et les amènent à des réactions violentes et surtout, là aussi, lutte contre le bien vivre ensemble. C'est ça, au fond, le message. Je parlais de Méalé. Alors, vous avez fait remarquer à juste titre, comme l'émission sera diffusée plus tard, qu'elle a eu lieu au mois de septembre, comme chaque année, et que la force du protestantisme, c'est effectivement de rester unis. Il faut à tout prix tout faire pour rester unis, malgré la diversité extraordinairement respectable et de ce protestantisme.
On en parle beaucoup à cette radio de la diversité du protestantisme, puisqu'on a une émission qui s'appelle Protestants au pluriel et qui parle de toutes les églises et les mouvements de la Fédération protestante. Et puis il y a tous ceux qui sont hors des fédérations dont on parlera un peu plus tard. Alors, vous avez rejoint une association qui a été créée par Wilfred Monod. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez dire deux mots de Wilfred Monod ?
Alors d'abord, ce n'est pas la CIMAD, hein, c'est la clairière.
Oui, c'est ça.
C'est la clairière qui avait été créée par Wilfred Monod. Wilfred Monod est un grand pasteur libéral du fin 19e, début 20e, effectivement, et qui devient pasteur à l'Oratoire du Louvre. Et à l'Oratoire du Louvre est situé dans le cœur de Paris, à côté du Louvre. Et dans le cœur de Paris, il y avait les Halles, autrefois, qui était un lieu où, bien entendu, arrivait toute la nourriture du peuple parisien.
Oui,
effectivement,
le ventre de Paris,
le ventre
Zola.
De Paris, voilà, de Zola. Mais en même temps, qui était un lieu de grande précarité et de grande pauvreté. Et c'est constatant cela que Wilfred Monod, avec d'autres de l'oratoire, décide de créer un lieu d'accueil, d'évangélisation, parce qu'à l'époque, il y a aussi de l'évangélisation, mais un lieu d'accueil social et très ouvert qui s'appelle La Clairière et qui est créé à la fin du 19e, officiellement plutôt au tout début du 20e, et qui depuis perdure et a été rattaché il y a quelques années au CASP. Et on y accueillait, au moment où j'en deviens président, à peu près une cinquantaine de nationalités différentes pour y apprendre le français. On y accueillait des jeunes, effectivement, issus de ces familles et qui avaient des difficultés à s'insérer dans l'école ou au lycée. Donc, il y avait des cours, effectivement, et un suivi de la scolarisation. Il y avait aussi des moments extraordinairement festifs et une entreprise d'insertion avait été créée pour les hommes. Et à l'époque où j'y étais, nous avons créé aussi une entreprise d'insertion pour les femmes qui a donné naissance à un restaurant d'insertion qui était ouvert à tous ceux qui voulaient passer dans la rue. Et ces moments-là étaient à la fois très chaleureux puisqu'ils étaient précédés en général d'un repas tout les mois, accueillant les personnes du quartier. Et je me souviens que j'avais l'habitude d'y inviter assez régulièrement des personnalités du monde social pour leur montrer ce que l'on faisait effectivement.
Donc,
dans ce
d'emblée,
lieu.
Vous avez une... très vite, vous avez une... Comment dirais-je, une fibre sociale en direction des plus défavorisés, en direction des mal intégrés.
Oui, alors pour deux raisons, peut-être parce que d'abord j'avais grandi en Afrique et que je suis arrivé en France en quatrième et tout, que ça a été quand même un peu dur. Donc je sais, alors que j'avais la peau blanche, que je maîtrisais le français, que c'est quelquefois difficile de s'intégrer dans un lieu qu'on ne connaît pas. Et la deuxième chose, c'est que je pense que quand on a eu une enfance et une éducation très favorisée, c'est peut-être bien de se dire qu'à un moment donné, consacrer un peu de temps pour des gens qui ont effectivement un contexte moins favorable que celui qu'on a eu, c'est bien. C'est et qu'il y a une chose, ça je tiens beaucoup à le dire, c'est qu'au fond, dans les moments où j'avais le moins envie d'aller, par exemple à la carrière ou à la CIMAD pour les permanences que j'ai fait pendant 5 ans à Belleville, effectivement, j'y allais parce que j'avais pris des rendez-vous, des engagements, donc il fallait y aller, et que j'en ressortais en me disant « mais comment as-tu pu avoir l'idée de ne pas y aller ?» Tellement j'étais heureux des rencontres que je pouvais y faire. Et ça, on l'oublie aussi. Oh, c'est pas que toutes les rencontres soient admirables, bien évidemment, mais il y en a beaucoup qui vous marquent et qui sont terriblement nourrissantes.
C'est très protestant, ça, l'engagement. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit qu'en découvrant le protestantisme, ils avaient été très frappés par le niveau d'engagement des paroissiens. Alors, il y a bien sûr des catholiques qui sont admirables, qui sont très engagés, mais dans le protestantisme, c'est très fort, c'est ce lien associatif.
Et ce lien, pardonnez-moi, c'est un lien associatif, certes, en direction du protestantisme, puisque là, je parle de la clairière éminemment protestante, de la CIMAD, vous l'avez rappelé, est tout lié au protestantisme, mais c'est un lien d'engagement vis-à-vis de la société. Au XIXe siècle, effectivement.
C'est le christianisme social.
Voilà, c'est très inspiré par ce christianisme social, et c'est quelque chose qui est orienté, quels que soient les engagements des personnes que nous recevons, en tous les cas pour moi.
Alors, je suppose que vous étiez aussi quelqu'un qui pouvait rendre des services dans ce genre d'association, parce que vous avez une carrière professionnelle assez intéressante, si j'ai bien compris. Par exemple, pour la CIMAD, le fait que vous ayez... vous étiez fonctionnaire, haut fonctionnaire, ça aide.
J'ai été pendant plusieurs années haut fonctionnaire, ensuite j'ai eu une carrière de banquier. Oui, c'est vrai qu'il est plus facile, peut-être, pour quelqu'un comme moi, de parler le même langage avec un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur ou de la Direction générale des étrangers et tout, même si c'est pour lui dire qu'on est absolument pas d'accord avec tous les propos du ministre de l'Intérieur et des
fonctionnaires. Mais je me doute que ça ne devait pas être facile quand même.
Mais c'est pas grave que ce soit pas facile. Ça doit être dit, ça doit être fait, et donc on le dit et on le fait.
Alors justement, quand vous parlez avec des hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui, depuis quelques années, ne sont pas très très favorables à la CIMAD et aux droits des immigrés, comment ça se passe? Vous aboutissez à quelque chose ou vous avez l'impression d'un dialogue de sourds?
Ça dépend, soyons clairs. Si l'on aboutissait dans tous les objectifs que l'on s'est fixés, il est tout à fait clair qu'aujourd'hui, on n'entendrait pas le ministre de l'Intérieur actuel et les hauts fonctionnaires des directions du ministère de l'Intérieur tenir les propos qu'ils tiennent.
C'est certain.
On n'entendrait même pas le Premier ministre parler de submersion formale à propos. C'était franchement tout à fait mal choisi et tout. La submersion, c'est celle que connaissent les migrants qui traversent la Méditerranée, canal du Mozambique ou la Manche. Effectivement. Donc dire qu'on arrive à nos objectifs, ce serait mensonge, malheureusement. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on n'y arrive pas, qu'il ne faut pas continuer à combattre et tout. Et je pense, et je persiste à penser, que à force de répéter le même langage, dans une langue compréhensible, c'est-à-dire qui n'est pas forcément qui ne choisit pas forcément l'agressivité, la radicalité pour la radicalité, l'on arrive à faire changer les choses. Je pense qu'il faut être optimiste tout le temps. Enfin, c'est mon tempérament, effectivement, même s'il y a des moments où on se dit que vraiment, on n'avance pas. Mais il ne faut perdre aucune occasion de parler des objectifs que l'on poursuit, de la manière dont on veut les atteindre et tout, parce que je suis convaincu, et il y en a des preuves, qu'il y a de plus en plus de membres de notre population qui sont convaincus qu'on ne peut pas continuer, effectivement, vis-à-vis des étrangers, puisque je parlais de la CIMAD, vis-à-vis des étrangers de la même manière qu'on se comporte actuellement. Alors même que le patronat lui-même, enfin je me fais l'écho du patronat,
oui,
c'est un comble, dit que d'ici à 2050, on aura besoin d'à peu près 4 millions d'immigrés, et le ministère de l'Intérieur dit « Oh non, 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 c'est pas possible, c'est pas nécessaire, on n'en a pas besoin. » Mais si, on en a besoin pour accompagner des personnes âgées, pour accompagner des petits-enfants, pour faire la plonge dans nos restaurants, pour travailler sur des chantiers, et ainsi de suite.
Et vous avez l'impression que dans la population, le discours... ce discours d'accueil et puis de réalité économique aussi, vous venez de le rappeler, que ça marche parce qu'on a quand même l'impression que les thèses identitaires xénophobes progressent actuellement.
Oui, vous avez raison. Je pense que beaucoup de gens sont écartelés entre, effectivement, une générosité naturelle,
oui.
Parce que je pense que l'homme est généreux naturellement, l'homme et la femme, hein, pardon.
Oui, non, mais j'avais bien compris.
Je dis et tout. Et que cette générosité naturelle est combattue par l'inquiétude très profonde que génèrent en particulier les discours politiques. Et je combattrai en particulier un discours qui est celui de beaucoup d'hommes politiques, de l'extrême droite comme de la droite, effectivement, mais quelquefois, même le centre, effectivement, utilise ce même discours, qui consiste à dire, oui, nous avons des problèmes, et nous avons besoin de beaucoup d'argent pour les régler, mais qu'est-ce que vous voulez, nous en donnons trop aux étrangers et tout. Donc la réaction de la population, c'est de dire, eh bien oui, la cause de nos problèmes, ce sont les étrangers, effectivement. Et ça, c'est à la fois un mensonge, et c'est en même temps, bien entendu, donc c'est malhonnête, et bien entendu, cela crée des tensions au sein de la population et tout. Donc... Les Français sont souvent écartelés entre leur bonne volonté de venir en aide à des gens en difficulté et le fait qu'on leur dit « ben oui, mais c'est à cause de ces gens-là, on les aide de trop, donc il faut les faire partir, effectivement ». Et quand vous êtes confronté à une difficulté sociale importante, comme il y a beaucoup de gens dans notre pays qui le sont, eh bien, c'est bien d'avoir qu'on vous désigne un bouc émissaire. Voilà. Ouais. Le danger, c'est que nous savons ce à quoi ça a conduit dans le siècle.
Ah bah en 1930, 40.
Et ça c'est strictement impossible. Et c'est surtout.
Mais les gens oublient les leçons de l'histoire. Hein. Il y en a certains qui savent à peine ce qui s'est passé dans les années 30, 40, la montée de l'extrême droite, du fascisme. Bon,
c'est ce que l'on dit et c'est très dommage.
Oui, c'est très dommage. Alors, moi, il y a une question qui me vient en vous écoutant parler. Comment vous faites pour rester quand même optimiste face à tout ça? C'est la Bible, c'est la foi, c'est ou votre confiance en la nature humaine? Est-ce que vous avez une recette pour rester optimiste?
Non, il n'y a pas de recette pour rester optimiste.
Sinon, j'étais preneuse.
Non, mais il n'y a pas. Je ne crois pas qu'il y ait de recette. À la fois, c'est votre parcours de vie avec les difficultés que vous avez pu rencontrer et le fait que soit par la chance, soit parce que et la chance, tout le monde peut y mettre derrière le mot qu'il a envie de mettre. C'est pour ça que je choisis effectivement ce mot neutre. Soit effectivement par votre détermination, soit par votre courage, vous arrivez à les surmonter. Et donc je pense que effectivement un pays comme le nôtre, confronté aujourd'hui à des difficultés tout à fait importantes, ne peut pas en rester là. et qu'il a une histoire qui a montré qu'il surmontait toute une série de crises. Je crois aussi que, effectivement, les hommes et les femmes sont bienveillants les uns par rapport aux autres, quoi qu'on en dise. Et qu'il y a mille exemples pour le prouver, alors que l'on montre toujours du doigt les mauvais exemples et tout. Éliminons ces mauvais exemples momentanément. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les traiter, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas condamner des gens qui se comportent mal, mais mettons en avant les points positifs, et je pense que tout le monde s'en portera mieux et sera à la fois plus enthousiaste, plus courageux et verra le monde un peu différemment.
Et alors, qu'est-ce que ça vous fait quand la CIMADE, je ne dis pas vous personnellement, mais la CIMADE est détestée par une partie de l'opinion publique, notamment quand il y a un crime de migrants, ça arrive rarement, mais quand il y en a un, il est monté en épingle par les journaux, et la CIMADE a été accusée. Oui, si la CIMADE n'avait pas été là, ma fille, mon fils seraient encore là. Quand on entend des choses comme ça, qu'est-ce que ça vous fait? Et la récupération qui en est faite,
alors,
surtout.
D'abord, tous les crimes, par quelques personnes que ce soit qui les commet, sont des choses condamnables et terribles. Et on doit d'abord, s'incliner avec beaucoup de respect et de compassion devant les personnes qui en sont les victimes, je veux dire la famille
oui,
bien évidemment. Et tout. Les récupérations sont scandaleuses,
ouais.
Parce que moi, ce que j'ai constaté au moment du meurtre d'Arras, puisque c'est à celui-là que vous faites allusion et qui a été l'objet de commentaires scandaleux vis-à-vis de l'estimate, ce que j'ai constaté, c'est que dans le même temps, un jeune homme de bonne famille, semble-t-il, avait assassiné un membre de sa famille, je ne sais plus exactement qui dans sa famille, et que là, on en parlait à peine en lui trouvant de bonnes raisons, en quelque sorte, d'avoir assassiné quelqu'un de sa famille. Je dis, arrêtons de pratiquer de cette façon-là et tout, c'est tout à fait scandaleux. Et je rappelle que dans le cas particulier que vous évoquez, la CIMADE était intervenue 10 ans auparavant pour une famille avec un garçon, celui qui est considéré comme l'assassin de ce professeur à Arras, qui a 20 ans au moment de l'assassinat, donc qui a 10 ans à ce moment-là, parfaitement intégré à l'école et qui réussit plutôt bien. Et la CIMADE était intervenue à côté du Parti communiste et d'autres associations.
Oui.
Mais on a montré du doigt,
voilà,
effectivement, la CIMADE. Alors, je trouve que c'est un peu abject. Je trouve que c'est abject aussi de monter en épingle des choses qui sont faites par des personnes étrangères et qui doivent être condamnées. Bien évidemment,
sûr.
Il y a de la justice pour cela et elle joue parfaitement son rôle et tout. Mais justifier par le fait qu'il y a une personne qui a fait un assassinat, que donc tout le groupe appartient cette personne doit quitter la France ou qu'on ne doit plus accueillir de personnes étrangères, c'est absolument ridicule, grotesque et immensément dangereux. Et surtout, ça ne montre pas une grande intelligence
non,
des
non,
personnes
non, non,
qui tiennent ce genre de propos.
Je suis tout à fait d'accord. Alors, je voudrais qu'on termine la dernière partie de cette émission sur autre chose. Vous faites partie du Conseil national de la Fédération protestante de France.
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous trouvez à la Fédération protestante de France? Vous avez parlé de la diversité tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui vous attire dans cette diversité? Et est-ce que les églises évangéliques s'impliquent autant dans des mouvements comme la CIMADE? Est-ce qu'on cohabite très bien à l'intérieur d'un mouvement comme la CIMADE entre évangéliques et luthéro-réformés, par exemple?
Alors, d'abord, je représente la CIMADE au niveau du Conseil national. Et je crois savoir, mais ce n'est pas la confirmation ce jour, que je vais continuer à représenter la CIMAD au Conseil de la Fédération protestante de France. Alors, bien évidemment, avant d'y représenter la CIMAD, ben, je ne connaissais pas ce conseil. Je le connaissais de l'extérieur, bien je sûr. Connaissais l'action de la Fédération ouais. protestante de France. Ce qui m'a frappé, qui me touche et qui me semble particulièrement positif, c'est effectivement cet éloge de la diversité et cette capacité à prendre des décisions difficiles, parce qu'elles sont difficiles, et tout, pour certaines églises.
Oui, parce qu'il faut savoir que sur les questions sociologiques, notamment, il y a énormément de différences entre les positionnements.
Mais bien sûr, bien évidemment, il y a des décisions qui sont difficiles, et il faut à la fois respecter ces différences et en même temps faire parce que nous ne sommes pas très nombreux et que notre parole doit être entendue et qu'elle ne peut pas être aussi diverse qu'on peut l'imaginer, il faut quand même essayer de s'entendre sur des points importants pour porter une parole forte et qui, je crois, est attendue de la part des autorités. Parce que c'est une parole originale. C'est une parole originale parce qu'elle a montré historiquement qu'elle était importante, puisque la République française s'est construite aussi avec beaucoup d'influences protestantes, l'école et d'autres choses encore. Et du même coup, sa parole est attendue. Et lorsque le protestantisme se tait, il ne répond pas, je le crois, à sa vocation dans la société française. Et c'est parce que, justement, la société est extrêmement fracturée aujourd'hui, que le protestantisme a une place peut-être plus importante que sa place en termes de nombre. Alors, au sujet de la CIMAD, effectivement, à la CIMAD, vous avez toutes les tendances. Vous avez des catholiques, vous avez des protestants, et je ne sais pas combien il y a de protestants, même si nous sommes très souvent accueillis dans des paroisses protestantes, et ça, c'est une très bonne chose. Et puis, il y a des personnes qui n'ont aucun engagement, et tout. Et parmi les protestants, il doit y avoir des évangéliques comme des luthéraux réformés. Mais je vous avoue que je n'en sais strictement rien.
c'est plutôt une bonne chose.
Et que je me réjouis que tout le monde puisse effectivement participer à la défense des objectifs de la CIMAD. Alors que c'est vrai que je pense que les choses ont aussi changé. Vous savez, je parle assez souvent de la CIMAD. L'occasion m'est donnée par le président de la Fédération protestante de France de parler effectivement de la CIMAD au Conseil et vraiment je constate une très grande écoute quelles que soient les tendances théologiques des personnes assises autour de la table. Ce que je souhaiterais, c'est que effectivement nous puissions effectivement nourrir peut-être plus de liens, parce que je crois que c'est important pour la CIMAD elle-même et pour ses idées. Mais là encore, les choses doivent se faire dans le temps et dans le respect des uns et des autres.
Donc vous restez, c'est pas encore officiel, mais non. Ça va le devenir. Donc on va suivre
a priori,
la chose.
Oui.
Donc au Conseil national de la Fédération protestante de France pour la CIMAD, et donc vous n'allez pas être en retraite complète.
Ah non, je suis au Conseil aussi, au bureau même, puisque la présidente me l'a demandé, de la Fédération de l'entraide protestante.
Bon, alors voilà. D'accord. Donc on va, eh bien, d'abord on va vous remercier d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et puis, on va vous souhaiter une semi-retraite, peut-être un peu plus de temps libre. Et puis, on remercie nos auditeurs de leur fidélité. À bientôt pour découvrir un autre protestant et son parcours.
Merci bien.
Au revoir.
Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.